Chapitre 13. Pouvoir et religion, des liens historiques traditionnels. Cours. Pouvoir et religion dans l'Empire byzantin. Comment les empereurs byzantins parviennent-ils à imposer leur autorité au clergé? 1. Un empire romain et chrétien en Orient. A. L'unité politique de l'Orient méditerranéen. La partie orientale de l'Empire romain échappe aux assauts des peuples germaniques. À sa tête, des empereurs continuent de se succéder du IVe au XVe siècle. Cet empire romain d'Orient est aujourd'hui qualifié de byzantin en référence à Byzance, la colonie grecque sur laquelle a été érigée sa capitale Constantinople. Durant les premiers siècles du Moyen Âge, l'Orient méditerranéen demeure donc unifié au sein de l'empire byzantin. Il échappe au processus de fragmentation politique en de multiples royaumes qui affectent alors l'Occident. En conséquence, ce n'est pas la religion chrétienne qui joue ici un rôle fédérateur, comme en Occident, mais bien l'Empire. Étant divisé en une multitude d'églises rivales issues de schismes successifs, nombre de chrétiens orientaux ne reconnaissent pas l'autorité spirituelle du pape. En revanche, toutes les populations de l'Empire byzantin sont soumises à celles temporelles du Basileus. B. Expansion et rétractation de l'Empire byzantin. Au VIe siècle, l'empereur byzantin Justinien reconquiert une partie des territoires de l'ancien Empire romain d'Occident. Profitant des divisions entre les rois germaniques européens, il met la main sur l'Afrique, une partie de l'Espagne et surtout sur l'Italie et la ville de Rome. Mais ces conquêtes sont de courte durée. Avec l'avènement et l'expansion de l'islam au VIIe siècle, l'Empire byzantin cède du terrain. Replié sur les Balkans et l'Anatolie, il perd progressivement son caractère romain. Le grec, qui est désormais la langue parlée par l'essentiel de ses habitants, s'impose dans l'administration ainsi que dans les rites religieux. 2. Le Basileus et le pape, de la protection à la séparation. A. Rome sous la coupe de Constantinople. Du 5e au 8e siècle, la ville de Rome fait partie de l'Empire byzantin. Le Basileus peut donc exercer un droit de regard sur la nomination de ses évêques. Si l'un d'eux lui déplaît, il peut aller jusqu'à le faire arrêter et déporter pour s'en débarrasser, comme cela arrive au pape Martin Ier en 453. À partir du 8e siècle, les Byzantins sont surtout occupés à protéger les frontières orientales de leur empire. Ils n'ont plus les moyens d'assurer la protection de leurs provinces européennes en proie aux convoitises des Lombards qui étendent leur emprise sur l'Italie du Nord. La papauté gagne donc en indépendance, mais au prix d'une dégradation de sa sécurité. B. La rupture avec Rome. C'est dans ce contexte que le pape Léon III se tourne vers le nouvel homme fort de l'Occident, le roi franc Charlemagne. Il accepte en 800 de le sacrer empereur en échange de sa protection. En reconnaissant aux Carolingiens, puis aux Ottoniens, le titre d'empereur, les papes mécontentent les empereurs byzantins qui se voient contester le monopole de l'héritage romain et chrétien. Ces rivalités politiques entre Empire d'Orient et d'Occident se doublent de querelles théologiques entre les églises grecques et latines. La première autorise par exemple le mariage des clercs, que la seconde interdit. Ces différends aboutissent au schisme de 1054. Dorénavant, l'Église byzantine rejette l'autorité du pape et le Basileus renonce à intervenir dans sa nomination. Le divorce entre les églises catholiques et orthodoxes est consommé en 1204 lorsque les croisés, partis d'Occident pour libérer Jérusalem de l'occupation arabe, font un détour par Constantinople qu'ils prennent d'assaut et saccagent. 3. L'Église au service de l'empereur. A. Le Basileus et le patriarche. Le Basileus affirme être le représentant de Dieu sur terre. Lorsqu'il accède au trône, il est couronné par le patriarche de Constantinople au cours d'une cérémonie organisée dans la cathédrale Sainte-Sophie, censée représenter son élection divine. Le Basileus a pour premier devoir de veiller au maintien de l'unité des chrétiens, notamment en réprimant les hérésies. Pour cela, il peut convoquer des conciles et y prendre part. Chef du clergé byzantin en tant qu'évêque de Constantinople, le patriarche doit prier pour le salut de l'empereur et de l'empire. C'est lui qui nomme les métropolites, qui sont en charge de l'administration religieuse de chacune des provinces de l'empire. Il dirige l'église byzantine en s'appuyant sur les recommandations du synode permanent, sorte de parlement qui réunit l'ensemble des métropolites résidents ou présents à Constantinople. B. Le pouvoir spirituel soumis au pouvoir temporel. Le basileus contrôle étroitement le clergé de son empire. Au contraire du pape en Occident, le patriarche ne peut s'opposer frontalement à l'empereur, car il est nommé par lui. De plus, si le patriarche occupe en principe sa fonction à vie, l'empereur peut le révoquer. Ainsi, lorsqu'en 730, le patriarche Germain refuse d'approuver la décision impériale d'imposer l'iconoclasme au motif qu'une telle mesure ne peut être prise que par un concile, il est écarté et remplacé par un clerc plus conciliant. L'Empire byzantin est marqué par le césaropapisme, c'est-à-dire que le pouvoir spirituel y est soumis au pouvoir temporel. S'il y a en apparence une séparation entre le pouvoir temporel du basileus et le pouvoir spirituel du patriarche, la relation entre les deux est en effet déséquilibrée au profit du premier.